Bonjour à chacune, bonjour à chacun. Je suis David Rosset, le pasteur de cette église. Et puis j'aimerais vous dire ces paroles, viens tel que tu es, viens devant ton Dieu. C'est vraiment les paroles que je nous invite, comme Marie nous l'a suggéré, à faire nôtres ce matin. Et puis même à travers la prédication, de venir tel que nous sommes devant Dieu pour écouter ce qu'il a à nous dire. Parce que ce matin, on va parler de trois choses en se basant sur un texte. La première, c'est d'ouverture à Dieu. Qu'est-ce que ça signifie de s'ouvrir à Dieu? La deuxième, c'est de reconnaître qui est Dieu. Et la troisième, c'est de trouver libération et repos en Dieu. Et pour ce faire, on va méditer un texte de l'Évangile que l'on trouve dans Matthieu. Et nous allons lire ensemble maintenant. Peu de temps après, Jésus dit, « Père, Seigneur du ciel, Seigneur de la terre, je te dis merci. En effet, ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as fait connaître aux petits ou aux enfants. Oui, Père, tu l'as bien voulu. Mon Père m'a tout donné. Personne ne connaît le Fils sauf le Père. » Personne ne connaît le Père, sauf le Fils, mais le Fils veut montrer le Père à d'autres pour qu'ils le connaissent aussi. Et Jésus qui parle toujours et qui dit, « Venez auprès de moi, vous tous qui portez des charges très lourdes et qui êtes fatigués, moi, Jésus, je vous donnerai le repos. Je ne cherche pas à vous dominer. Prenez donc vous aussi la charge que je vous propose. » Et devenez ainsi mes disciples. Vous trouverez le repos pour vous-même. Oui, la charge que je mettrai sur vous est facile à porter. Ce que je vous donne à porter est léger. Amen. Matthieu, dans l'Évangile, met trois éléments un peu disparates ensemble. Trois éléments distincts que l'on trouve dans ce texte de l'Évangile. Et pourtant, Matthieu décide de les mettre ensemble. Et généralement, quand il y a ce genre de choses dans l'Évangile, c'est que ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas juste fait comme ça, à la légère. On croit que c'est une parole inspirée, qu'elle vient de Dieu directement. Et je crois que là, cet enchaînement, il a un sens. La première chose qui nous est mentionnée dans ce texte, c'est une mise en opposition. Il y a d'un côté les enfants, puis vous êtes là ce matin avec nous pour cette première partie. Vous devez écouter la prédication, dis donc. Et d'un autre, il y a les sages et ceux qui savent, ceux qui ont le pouvoir aussi. Jésus ose une opposition entre les deux catégories. Ensuite, il y a cette magnifique et une des toutes premières confessions de foi, où on dit qui est Dieu. C'est ça, une confession de foi. On dit avec nos mots qui est Dieu. Et là, c'était une révolution lorsqu'ils ont exprimé ce qu'ils ont exprimé. Parce que de dire que Jésus, celui qui était homme parmi les hommes, qui était avec eux tous les jours, qui mangeait, qui buvait, qui faisait même la fête avec tout le monde, ça nous a dit quelques versets auparavant, ce même Jésus de chair et d'os, c'était aussi celui qui est envoyé du Dieu de toute éternité. Celui qui était envoyé du Dieu de toute éternité, notre Père qui est aux cieux. Celui qui a créé le monde, celui qui est à l'origine de tout. Ce Jésus qu'ils avaient en face d'eux, c'était son Fils. Ce n'est pas rien que de dire ça. Et c'est ce qu'on va un peu creuser ce matin. Et ce même Jésus, c'est lui qui offre, comme personne d'autre ne peut offrir, la libération et le repos, le véritable repos. Alors pourquoi Matthieu décide de placer ces trois éléments ensemble ? Est-ce par exemple trop simpliste ou bien un peu niais de penser que Dieu peut envoyer son Fils dans le monde? C'est une grande question que beaucoup de personnes se posent dans les rues. Si vous allez dans la rue et vous pouvez demander qu'est-ce que vous croyez, qui vous croyez que Jésus est, souvent vous dire que c'est un sage, c'est quelqu'un d'important, c'est peut-être un prophète. Mais dès que vous allez sur le fait que c'est le Fils de Dieu, là vous risquez d'avoir des problèmes. Enfin, pas forcément, mais vous risquez d'avoir des discussions qui peuvent s'animer ou alors vous allez vous heurter à une incompréhension totale. D'ailleurs, c'est le thème de notre première soirée du week-end d'inauguration. Puis je profite pour faire un petit coup de pub pour vous dire que notre conférence Frateo du jeudi 9 novembre va spécifiquement traiter de cette thématique-là. Jésus, fils de Dieu, est-ce uniquement une belle invention ou peut-être quelque chose de plus? La deuxième question qu'on peut se poser avec cet enchaînement, c'est de dire, est-ce que les sages et les savants auraient peut-être plus de peine à avouer leurs failles que les enfants? Est-ce qu'ils se construisent une espèce de carapace pour se dire, ah, moi, si je dois commencer à avouer que j'ai des charges, que j'ai des fardeaux, que je me sens fatigué, je vais m'avouer comme étant un peu faible, un peu fragile peut-être, un peu vulnérable. Il y a une difficulté pour ces personnes-là, peut-être, à s'avouer chargé, à s'avouer fatigué, à s'avouer dans le besoin de recevoir une libération, quelque chose de différent de quelqu'un d'autre. Au contraire, peut-être, que pour un petit enfant. D'ailleurs, moi, le premier sport que j'ai fait, je vais continuer avec le sport, hein, c'était du tennis. Alors, j'ai d'abord suivi les pas de Roger Federer, après ça s'est gâté. Je suis devenu pasteur. Ma foi, c'est ainsi. Mais toujours est-il que j'étais assez fan de tennis. Et puis, à un moment donné, j'ai commencé à faire des matchs, de la compétition. Et c'était très intéressant parce que c'était un truc que nos entraîneurs nous disaient. Vous devez essayer de montrer le moins d'émotions possible. Et spécialement lorsque vous êtes fatigué, il ne faut pas que vous le montriez. Votre langage corporel doit montrer toujours que vous êtes en forme, prêt à attaquer, prêt à défendre, prêt finalement à vaincre et à gagner le match. Donc dans un match de tennis, puis c'est toujours le cas actuellement, si votre langage corporel indique le contraire, votre adversaire va le voir et va en profiter pour vous assommer. Guy, t'en sais quelque chose, je t'ai battu quelques fois au tennis. Tu m'as trop montré de signes, non, c'est pas vrai. Si on montre que l'on est fatigué, on est cuit. Et puis, on le voit dans notre société, on est dans une société basée avant tout sur la performance. Puis le fait qu'on admire beaucoup les sportifs, ce n'est pas forcément un hasard. On est basé sur une société qui valorise la performance, qui valorise le succès, qui valorise toutes ces choses-là pour montrer finalement qu'on est en forme, qu'on est bien là. Alors, s'avouer fatigué et chargé, ce n'est pas évident dans ces circonstances-là. Et puis là, je le trouve, ce dessin d'Alain Audersay, qui nous a fait la gentillesse de venir il y a quelque temps parmi nous, je le trouve extrêmement interpellant et frappant. On s'y retrouve pleinement, hein, dans ce dessin, où finalement toutes nos barricades, elles sont là pour dire « C'est bon, Seigneur, t'inquiète pas, je maîtrise. Je maîtrise la situation, j'ai pas de doute. » J'ai pas de problème, alors que nos tripes, peut-être, nos émotions, ce qui se cache derrière un peu cette muraille qu'on essaye de construire, ça crie tout autre chose. Ça crie, oui, plutôt j'ai besoin d'aide, si possible, est-ce que tu peux venir m'aider? Est-ce que je suis seul au monde ou pas? Bon KPJ, les enfants, soyez bénis parce qu'il vous a vous être apporté par Guy, Gentilson et Odile Simonin ce matin. Dans la Bible, les sages, les bien-pensants, c'est surtout ceux qui sont considérés comme ces personnes qui se ferment à Dieu, qui se ferment à une quelconque aide qui peut venir de sa part. C'est des personnes qui finalement construisent des certitudes, des convictions, qui sont d'une certaine façon inébranlables, où Dieu finalement, il essaye de rentrer par tous les axes, puis il n'y arrive pas parce qu'il trouve toujours une bonne réponse, de dire c'est bon, là je m'en occupe, c'est bon, là je suis au point, c'est bon, laisse mon autonomie, c'est bon, j'arriverai à me débrouiller tout seul. Au contraire des enfants qui peuvent nous montrer ce chemin d'ouverture en toute simplicité. Et c'est vrai que cet exemple de cet enfant qui jouait à feuille, cahier, suisse avec Dieu, on peut le comprendre comme étant complètement naïf. Puis on peut le comprendre aussi d'un naturel de relation avec Dieu qui reste interpellant. De se dire oui à Dieu, je peux m'adresser à lui comme un père, et c'est effectivement le cas. Il n'y a pas besoin de compliquer les choses. Quand on est adulte, on doit revisiter ces choses-là, parce qu'évidemment, on les complique, et ce n'est pas forcément une mauvaise chose. Mais de retrouver cette simplicité d'enfant, il y a quelque chose d'interpellant. Parce que retrouver cette simplicité d'enfant signifie oser s'ouvrir vers Dieu, oser nous mettre devant lui tel que nous sommes, tel que je suis, et viens et adore. Nous venons de chanter ça ce matin. Et puis ce sont les mêmes, ces petits, ces enfants, qui quelques versets auparavant lancent cette invitation que je trouve aussi interpellante. À qui est-ce que je vais comparer les gens d'aujourd'hui ? C'était il y a 2000 ans, mais on se rend compte que la comparaison tient toujours pour aujourd'hui. Ils ressemblent à des enfants assis sur la place du village. Et les uns crient aux autres. Pour vous, nous avons joué un air de flûte, mais vous n'avez pas dansé. Nous avons chanté un chant de funérailles, mais vous n'avez pas pleuré. Et on retrouve cette illustration. Cette incapacité, finalement, à descendre au plus profond de qui nous sommes et exposer notre véritable identité, nos émotions à Dieu. Entrer dans la danse en étant invité par les enfants, c'est tout ce domaine de la joie, le domaine de la réjouissance. Chanter un chant de funérailles, c'est tout ce qui fait aussi la partie plus négative de nos vies, peut-être plus triste, mais que nous pouvons apporter exactement de la même manière devant Dieu. Cette invitation, elle se heurte parfois à des refus. Ce refus qui dit « c'est bon, tranquille, je n'ai besoin de rien ». Et ce texte finit sur un mystère dont la Bible a le secret, j'ai envie de dire. Parce que nous, on essaye, et puis j'essaye un peu ce matin, d'expliquer, d'essayer de comprendre ce qui peut se cacher là derrière. Et puis Jésus finit par une pirouette. Parce que qu'est-ce qu'il dit ? En effet, je te dis merci parce que ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as fait connaître aux tout petits. Oui, Père, tu l'as bien voulu. Finalement, on peut essayer de trouver toutes les explications possibles et imaginables. Jésus nous place face à ce mystère de la révélation. À qui il révèle certaines choses, à qui il ne le révèle pas. Et puis je crois qu'au cœur d'une église, au cœur d'une communauté telle que la nôtre, on peut aussi dire merci au Père, à notre Père, de nous avoir révélé ces choses qu'il a peut-être cachées à d'autres. De se dire que cette révélation de qui il est, de ce Père qui nous accueille tel que nous sommes, nous pouvons en profiter, nous pouvons en jouir autant que nous voulons, et particulièrement ce matin. Dire et confesser que Jésus est le Fils de Dieu, dire et confesser que oui, c'est vers lui que nous voulons venir pour être délivrés et reposés. Cette confession, on l'a dit, c'est une des premières confessions de la foi chrétienne. Ils sont en train de découvrir qui est véritablement Dieu. Et pour nous, ce n'est pas une confession qui est si facile que cela à faire. Peut-être lorsqu'on est dans un cadre privilégié comme celui du dimanche matin, on se dit qu'il y a quelque chose de facile parce que beaucoup de personnes croient la même chose que nous. Beaucoup de personnes pensent qu'effectivement Jésus est le Fils de Dieu et qu'il est venu pour nous. De le dire tout à nouveau à nos copains d'école, à nos collègues de travail, à ceux que nous côtoyons, nos voisins, c'est une tâche qui est beaucoup plus compliquée. Et je trouve qu'on a un sacré mérite, en tant que chrétien, de rester fidèle à cette confession de foi de qui est véritablement Dieu. Celui qui vient vers nous, qui a envoyé son Fils dans le monde pour venir nous rejoindre. Il y a quelque chose de complètement fou à continuer de croire ça dans un environnement, dans un monde qui ne le proclame jamais. Ce témoignage-là, on a l'occasion de le répéter et de le revivre, le refaire monter en nous chaque dimanche matin et je l'espère le plus souvent possible dans les jours de la semaine. Mais le dimanche matin, il y a cette occasion particulière où on peut dire à nouveau cette intimité que l'on a avec le Père, que ce n'est pas une vue de l'esprit, que c'est une réalité qui nous habite au plus profond de nous. Et cette réalité de confesser, de dire et de reconnaître qui est Dieu nous permet d'aller vers ce verset qui est la base pour animer ces cultes que nous appelons pour personnes fatiguées et chargées. C'est la base pour pouvoir dire et pour pouvoir croire à ce « Venez auprès de moi, vous tous qui portez des charges très lourdes et qui êtes fatigués, et moi, je vous donnerai le repos. » Dieu est au courant de nos situations et de nos réalités. Ça ne nous sert à rien de dire « Il n'y a pas besoin de moi, je vais essayer de te cacher les choses. » Ça, c'est une partie de la réponse. C'est aussi de dire, s'il est au courant, que Dieu n'est pas insensible à ce que nous vivons. Et c'est pleinement dans ce sens qu'on a envie de vivre ce culte ce matin pour les personnes fatiguées et chargées. Et j'ai envie de dire pour nous tous. Parce que je crois que si on se place sereinement et de manière authentique devant Dieu, on peut lui apporter ce qui nous pèse, ce qui nous fatigue, ce qui finalement fait partie de nos vies. Tout comme on peut lui apporter notre danse, notre joie, nos réjouissances. L'un et l'autre vont ensemble dans cet exercice d'authenticité devant Dieu. Il n'y a aucun jugement moral là-dessus de la part de Dieu. Il n'est pas en train de nous dire « parce que tu es fatigué, c'est parce que si, parce que ça, parce que ça, parce que ça ». Absolument pas. La seule réalité qu'il y a, c'est que Dieu nous connaît parfaitement et qu'il connaît parfaitement notre situation dans la vie telle qu'elle est sur terre. Il n'est pas en train de nous dire « le royaume est déjà là et puis vous pouvez vous amuser et puis profiter pleinement de ma présence ». Il sait pertinemment quelle est notre situation sur terre et comment il peut nous apporter son repos. Il nous propose et nous promet ce repos pour autant que nous y soyons ouverts et que nous le reconnaissions comme celui qui peut nous soulager. Ce n'est pas forcément le cas. C'est pour ça que cette confession de foi précède, vient avant cette promesse que Dieu nous fait. Dieu nous promet le repos. Alors, je ne vais pas faire une prédication sur le repos, mais on pourra en dire beaucoup de choses sur ce repos. La seule chose que j'aimerais souligner, puis je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y a assez longtemps, il y a eu une prédication de Victor Crétenant sur ce sujet du repos. Et puis, il a bien insisté sur un aspect que j'ai trouvé très intéressant. C'est que le repos, dans le sens biblique, et c'est tout ce que je vais nous laisser ce matin, c'est un repos en Dieu. Ce n'est pas un repos dans les choses que j'aime bien faire, comme des loisirs ou quoi que ce soit, mais c'est un repos en Dieu. D'un repos reçu de sa part. Et c'est de ça dont il est question, c'est ce repos que Dieu nous donne. Et ensuite, il nous donne la sécurité dont nous avons besoin pour bénéficier de ce repos. Je ne sais pas si vous avez vu, il y a cette petite phrase-là. « Je ne cherche pas à vous dominer ». S'il y a bien une chose dont on a peur en tant qu'être humain, c'est de se laisser dominer par quelqu'un d'autre et de perdre ainsi notre liberté. De nouveau, c'est extraordinaire de constater à quel point la Bible est lucide sur ce qui peut nous habiter. Jésus, avant d'annoncer sa promesse, il déclare « Soyez rassurés, mon but, les amis, ce n'est pas de vous dominer, mais c'est de vous offrir quelque chose. » Ce n'est pas une question d'autorité ou de servitude, c'est une question que je vous offre quelque chose pour aller plus loin. Et ensuite, il nous propose ce projet de vie. Prenez donc vous aussi la charge que je vous propose et devenez mes disciples. Ainsi, vous trouverez le repos pour vous-même. Oui, la charge que je mettrai sur vous est facile à porter. Ce que je vous donne à porter est léger. Mon joug est bon et ma charge légère. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est encore un joug. Qu'est-ce qui sait encore ce que c'est un joug ? Vous avez encore des bonnes... Ça fait longtemps que ça n'existe plus en Suisse. Hein. Ça fait des années qu'on a des tracteurs à la place des jougs. Parce que le joug était utilisé, et puis il est encore utilisé dans certaines parties de notre monde à l'heure actuelle, hein. Il est utilisé pour mettre deux animaux de trait, que ce soit des bœufs, que ce soit des chevaux, côte à côte pour qu'ils puissent travailler au champ ensemble. C'est un instrument comme ça, généralement un bois, que l'on pose sur la nuque des deux animaux qui doivent travailler ensemble. Et puis, ainsi, ils sont amenés à travailler côte à côte, l'un avec l'autre. Donc, ce que nous propose Jésus comme projet de vie, ce n'est pas seulement une vie de repos, je suis désolé de vous l'annoncer, même en lui, c'est une vie qui reste attachée à un joug, c'est-à-dire à une charge. Et là, on retrouve cette réalité que nous ne sommes pas encore, les amis, dans le royaume de Dieu pleinement. Par contre, on peut avoir des bribes de ce royaume à travers cette compagnie et ce compagnonnage de Jésus à nos côtés. Parce que s'il nous propose un joug, c'est qu'il nous propose un accompagnement. Et je pense que vous voyez de quelle manière. S'il nous propose de porter à notre tour ce joug qui est doux et léger, c'est parce que simplement il nous propose de faire attelage avec lui sur nos chemins de vie. Et c'est cet attelage de nous voir l'un à côté de l'autre, moi David, avec Dieu à côté, unis sur ce même attelage, pour travailler et donner du sens à ma vie. C'est ça cette image et la force de cette image. Et selon cette image, c'est ça qui va me donner le repos nécessaire pour affronter la vie telle qu'elle est. Pas telle que je voudrais qu'elle soit, ou telle que je pense qu'elle pourrait être, c'est-à-dire faite que de repos, mais véritablement de vivre cette vie de labeur, de vivre cette vie d'exigence, de travail, mais accompagnée de la part de Dieu. Ce que nous propose Jésus est donc un joug, et ça reste lié au travail. Il ne propose pas que du repos, mais il nous propose aussi du repos. Avec Jésus, c'est là que l'on se rend compte, le royaume s'est approché de manière décisive. Il s'est approché de manière unique. Et tout ce que nous avons vu ce matin, ces différents éléments que nous donne ce texte, j'aimerais vous proposer de les vivre de manière un peu expérimentale, tout en gardant une forme très classique. J'aimerais nous inviter à vivre ce geste d'ouverture, ce geste de reconnaissance de qui est Dieu, et ce geste d'attachement à Jésus où on peut déposer ce qui nous paraît lourd, ce qui nous paraît être des éléments qui nous fatiguent, au pied de la croix et en venant à cette table. Dans notre communauté, on a l'habitude de célébrer la scène tous les dimanches. Ce n'est pas parce qu'on croit que c'est une bonne habitude et qu'il faut la conserver, mais on croit que ce geste, Jésus nous l'a laissé comme étant un signe précisément de ce royaume à venir. Dans l'espérance de ce royaume qui vient, il y a une irruption en Jésus déjà dans nos vies qui peuvent être difficiles. Et c'est pour ça qu'on maintient ce geste chaque dimanche, ou presque, pour pouvoir nous approcher tout à nouveau de qui est Dieu, de reconnaître qui il est, et de bénéficier de son repos et de sa grâce. Une fois que nous avons confessé que Jésus est bien le Fils de Dieu, nous pouvons réaliser que c'est seulement en lui que nous trouvons le repos, que c'est vers lui que nous pouvons aller déposer nos fardeaux, nos charges, nos manquements, non pas pour rester coincé dessus, mais pour en être délivré. Donc lorsque l'on vient à la table de la scène, ce n'est pas pour tomber dans une espèce de négativisme où tous les péchés nous accablent et nous envahissent, mais c'est vraiment un lieu d'authenticité et de libération. Ce n'est pas quelque chose de négativisme moral qui doit nous plomber, même si ça a pu prendre peut-être ces formes-là. Moi, je pense qu'en partageant ce repas de la scène, on vise plutôt une forme d'authenticité. Cette authenticité qui nous sauve. Et cette authenticité en langage biblique signifie savoir regarder la réalité en face, telle qu'elle est, en étant sûr de la présence et de la libération offerte par notre Père. Moi, je suis frappé ces jours-ci par l'actualité de la presse et toutes ces histoires tristes à mourir de harcèlement, de personnes qui osent enfin sortir du silence, briser le silence, et tout à coup qui prennent leur courage à deux mains, puis qui disent « voilà, ça m'est arrivé et j'aimerais en être libéré ». Ce qui m'étonne, c'est qu'on soit étonné que ça se passe. Qu'on soit étonné que tout à coup ces choses-là sortent et deviennent réalité. Et pour moi, il y a quelque chose là, en tant que croyant, qui nous différencie d'une certaine façon, c'est que nous avons la chance, et c'est une chance et un privilège, de pouvoir vivre une vie authentique et sans masque. Devant Dieu, on peut s'approcher de cette table, on peut effectivement venir déposer ses charges, ses fardeaux, ce qui nous fatigue, sans avoir besoin de les planquer, comme ça peut être le cas dans la société. Malheureusement, ça a aussi été le cas dans l'Église, ce n'est pas pour nous glorifier, mais je crois que ce qui reste vrai, malgré tout ce qui a pu se passer dans le passé de l'Église, ce qui reste vrai, c'est que à travers cette communion avec Jésus, par la présence de ces éléments qu'il nous a laissés, cette irruption du royaume, on a une occasion unique d'être véritablement authentique. Pas une authenticité à la forme des réseaux sociaux, mais une authenticité réelle devant le Père tel que nous sommes. Vous l'avez compris, cette table au centre, pendant ce culte, le montre. Et pour moi, ces trois éléments d'ouverture à Dieu, de reconnaître qui il est pour nous et de pouvoir nous approcher de lui pour être libérés de tout ce qui nous pèse et d'entrer dans sa joie, dans sa paix, ces trois éléments sont vraiment résumés en nous approchant de cette table. Alors maintenant, je vous invite à un temps particulier. En plus, on est nombreux ce matin, alors ça va prendre du temps. Mais on a tout le temps ce matin de venir et de poser ce geste, si vous le désirez, physiquement, de s'approcher de cette table. Vous approcher pour vous ouvrir à Dieu, reconnaître qui il est pour vous, dans vos vies, et être libéré si vous avez besoin d'être libéré de quelque chose. Il y a aussi différentes personnes qui seront là dans la salle et je demanderais qu'elles puissent se lever. Il y a 6 personnes qui sont là, des équipiers que l'on appelle le groupe Baraka, qui est un groupe au service simplement de l'Église pour service d'écoute, un service de prière. Et si vous sentez que c'est peut-être compliqué ce matin de vous approcher de la table de Dieu, si vous sentez que vous avez besoin d'une aide particulière et d'un moment de prière, de partage, vous pouvez sans autre vous approcher de ces quelques personnes qui sont dans la salle pour partager, pour recevoir la prière, pour recevoir une bénédiction particulière. Et si vous sentez que quelque chose de fort aussi s'est vécu lorsque vous avez partagé les différents éléments, n'hésitez pas à retourner vers eux pour avoir un temps de partage. Alors, ils sont là, ils ont spécialement à cœur ce service pour notre communauté. Mais évidemment, ce ne sont pas les spécialistes du genre. Si simplement vous sentez l'occasion de vous ouvrir à votre voisine, à votre voisin, de demander un temps de prière les uns pour les autres suite à ce partage de la scène, il y a vraiment une totale liberté pour le faire. Je crois que plus ça circule, mieux ça va se passer. Alors je propose maintenant à l'équipe de louanges qui va nous accompagner pendant ce temps, de monter. Je propose à Marie aussi de venir me rejoindre.